Jean arrivait rarement au magasin avant 7 heures du soir. Une fois sur deux, Françoise et lui n'avaient que le temps de s'embrasser avant que la jeune femme, et ne se retrouvaient que beaucoup plus tard, lorsque Michel avait rejoint Orly, dans la chambre d'hôtel devenue leur chez eux. Presque toujours, le panneau de bois était mis et le bec de canne enlevé. Jean passait par derrière le petit corridor de l'immeuble et trouvait Françoise en tenue de ville l'attendant. Elle riait et disait « Je te parle de mon travail, tu ne dois pas y croire. Quand tu me vois, j'ai toujours l'air de vivre de mes rentes. » « Moi aussi, disait-il, tu pourrais penser que je ne fiche rien. » « C'est merveilleux, concluait-elle. Nous sommes ensemble, comme d'autres sont en vacances. » Mais il semblait à Jean que, plaisantant ainsi, elle n'était pas sincère, qu'elle souffrait, pourquoi, de se montrer à lui sous l'aspect d'une oisive. Un peu sincère lui-même, il comprendrait pourquoi, savourait que parfois il ressent le besoin de ne plus voir en Françoise ce qu'il voit dans toutes les femmes, objets de luxe, jeux, que parfois l'imminence d'une joie inespérée le tient éveillé près d'elle, endormi pour une heure. Mais s'il cherche plus tard à se rappeler la cause de l'impression fugitive, c'est toujours un détail insignifiant, la courbure du bras sur le traversin ou quelque éclat entreaperçu sur le front lisse, sur un sein dénudé. Il ne s'intéresse pas à cette autre Françoise, au chignon bien tiré, au tailleur net, qui se plaint de maux de tête, parfois, et qui se livre à des achats d'anticaille, non plus qu'à ce mari en face duquel elle déjeune et elle dîne, avec lequel, tout de même, elle couche de temps en temps. Il ne s'intéresse ni à son métier, ni à son enfance secrète. Ils font l'amour depuis 3 semaines, qu'il ne sait même pas encore si les parents de Françoise ne sont pas morts. Ils ne le sont pas. Ils vivent quelque part en Touraine, dans un petit bled, où Françoise va les voir une fois par mois régulièrement. « Tu n'y es pas allé, dit Jean, depuis que je te connais. » La riposte soudaine de Françoise l'a surpris. « Tu ne connais rien de moi. » Il manque d'en être ému. Mais elle poursuivit trop vite. « T'es-tu seulement demandé pourquoi j'en suis venue à t'aimer, toi, et pas un autre ?» Naturellement, elle l'a aimé dès le premier jour, ainsi que toutes 16 autres femmes. Le visage de Jean, stupide, montre si bien qu'il ne s'est jamais posé la question, sa voix se fait si volontaire pour dire « tu le regrettes » qu'une sorte de frisson parcourt Françoise, et que la réponse de la femme à son tour n'est pas dénuée d'amertume. « As-tu pensé au moins que tu pouvais ne pas être le premier dans ma vie ?»« Mais tu m'as dit 100 fois que ton mari... »« Je ne parle pas de Michel. » On dirait qu'il s'apprête à essayer de comprendre. Puis, la petite flamme disparaît de son œil. « Je n'ai jamais pensé à ça, non, et je ne tiens pas à y penser. » Ce même jour, il a remarqué le gros bouton qui dépare la nuque de la femme, sous l'oreille gauche, et une tare identique au-dessus du sein droit. Ces imperfections le gênent, exagérément. Il s'oblige à les oublier. En l'absence de Françoise, d'ailleurs, c'est avec soulagement qu'il lui échappe. Comme emporté par un cheval emballé dans un sentier qui traverse les bois, il tenterait, en se déchirant les mains aux branches, de ralentir l'élan de son coursier. Il voudrait se retenir aux moindres événements de la vie quotidienne. Il y parvient. Plutôt, il y est tant bien que mal parvenu, jusqu'à présent. Secondé dans cet effort par son travail, le mâche y quelque chose atteint, les petites escarmouches avec l'ingénieur en chef, la transpiration à 12 000 mètres, tel que le premier geste du pilote après l'atterrissage est de vider son casque sur le terrain. Et ce dérapage sur la gauche au passage du mur du son ou ce frémissement de l'aileron droit. Mais, programmé par le centre d'essai en vol, le fameux BPM, le poisson, depuis quelques jours, n'appartenait plus à son pilote. De retour à l'usine pour une vérification minutieuse, pièce par pièce, il attendait d'être envoyé à Brétigny. Et Jean attendait de l'y rejoindre. Un soir, lorsqu'il eut frappé trois coups à la petite porte du couloir, et que la porte n'étant pas fermée au verrou, il put entrer, il ne trouva point Françoise vêtue, prête à partir comme d'ordinaire. Affublée d'une blouse grise et d'un foulard qui emprisonnait ses cheveux, petite, soudain et chauve, elle était dans l'arrière-boutique, penchée au-dessus d'une bassine pleine d'un liquide fumant. Elle tenait dans ses mains une coupe qui, au premier regard, parut à Jean fort belle. Il s'agissait, lui dit Françoise plus tard, d'une coupe en onyx entourée d'un bronze incrusté d'émaux. Tout d'abord, en le voyant, elle cria seulement en manière de salut « N'approche pas !» Elle-même, elle se recula, tandis qu'ayant plongé une brosse dans la bassine, elle en frottait l'objet. « De l'ammoniaque ?» dit Jean. Elle fit oui de la tête. Elle pleurait comme une cuisinière qui épluche des oignons. Stupéfait, Jean la regarda, toujours pleurant, répétait deux ou trois fois son geste. Enfin, elle jeta la coupe dans l'eau, l'essuya avec un chiffon et la posa derrière elle. Puis, elle se moucha. « Pardonne-moi, je voulais en finir ce soir. Cette coupe, j'espère la vendre dans les 48 heures et j'ai vraiment besoin d'argent. » Il ne dit rien. Pour la première fois, il éprouvait, à l'égard du métier de Françoise, un sentiment qui ressemblait à de la curiosité. Mais il lui fallut attendre qu'elle eût revêtu son tailleur bleu et vert, coiffé son grand panama blanc, près de 20 minutes, qu'il souffrit sans se plaindre, bouleversé par la fugitive vision d'une Françoise inconcevable, presque laide, faible et menacée. « Pourquoi fais-tu ce métier ? » demanda-t-il enfin, s'il ne te cause que des soucis. Redevenue elle-même, elle lui jeta un regard gai, qu'il jugea ironique, expression de son plaisir à voir Jean se préoccuper de ses détails. « Je fais ce métier pour me libérer de mon mari. C'est un prêt de Michel, bien sûr, qui au départ m'a permis d'acquérir le magasin. Et il arrive, de moins en moins souvent, que j'ai besoin de son aide. Mais je ne lui emprunte rien que je ne lui rembourse. Peu à peu, je conquiers mon indépendance. » Pourquoi parlais-tu de soucis d'argent ? Elle le lui expliqua. Un magasin ne contient jamais trop de marchandises, et pour une antiquaire, certaines occasions ne se laissent pas échapper. Mais la vente ne suit pas toujours, et il arrive que certaines échéances soient difficiles. Elle avait ainsi deux traites à payer dans 5 jours, et il lui manquait 60 000 francs pour y faire face. Il eut peur qu'elle n'envisageât de les lui emprunter, mais apparemment elle n'y songeait pas. « Comment vas-tu faire ?»« Je ne sais pas encore, mais tranquillise-toi. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et jusqu'à présent, toujours, je m'en suis tirée. »« Quel métier pour une femme ?»« Tu dis cela à cause de l'ammoniaque ?»« Oh, ce n'est pas plus méchant que de nettoyer sa cuisinière ou cirer son escalier. »« Il est plus fatigant de courir les châteaux ou les ventes à la recherche de l'oiseau rare. Mais je préfère cela à ce que serait mon destin si je devais, dame fricot, rester à la maison toute la journée dans l'attente du maître. Il la regarda, intimidé moins par la femme elle-même que par son ignorance de ce qu'elle était vraiment. Il voyait bien qu'elle était belle. Il la jugeait intelligente. Il l'aimait, soit. Mais il ne l'avait jamais imaginée chez elle. Il n'était même pas allé chez elle. Et moi encore, courant les routes ou, comme tout à l'heure, nettoyant une coupe à l'ammoniac. Une modestie soudaine, inattendue de sa part, lui fit se demander pourquoi, en effet, elle l'avait aimé. Comment il pouvait ne pas la décevoir? Cette pensée ne lui plut pas. Pourtant, il ne parvint pas à s'en débarrasser. Lorsqu'ils se furent assis de part et d'autre d'une table, dans leur restaurant habituel, il lui dit tout à coup « N'as-tu jamais pensé à divorcer ?» Elle mangeait à petites bouchées, ni pain, ni féculents, à cause de sa ligne, des tranches de tomates en salade. Si, bien souvent. Mais d'abord, Michel s'y opposerait, et mes parents eux aussi. Tu sais que l'Église interdit le divorce. Qu'est-ce que tes parents ont à voir là-dedans ? Je ne voulais pas leur faire de la peine. Il nota l'imparfait, mais il ne demanda pas. Et maintenant, divorcerais-tu ? Stupide d'y avoir seulement songé. Ce soir, papa ne dînait pas à la maison et maman n'était pas gentille. L'après-midi n'a pas été très beau non plus, pour des tas de raisons. Le professeur d'histoire, cette bourrique, avait donné à Michou 100 lignes à faire. Une punition idiote, une punition pour bébé. Michou aurait mieux aimé 2 ou 3 heures de retenue. Mais le professeur d'histoire est ainsi. Il n'a pas la notion des choses. Les 100 lignes, en 1/2 heure, Michou les a eu bâclées. Alors, il s'est attaqué à la quadrature du cercle. Cette histoire de quadrature le tourmentait depuis des semaines. Depuis que le professeur de mathématiques, Baudouin, surnommé Maccabée à cause de sa mine longue et triste, avait commis l'erreur de donner à ses élèves cet exemple célèbre du problème insoluble. Un problème que personne, jamais, n'a pu résoudre, sur lequel les plus grands mathématiciens se sont cassés le nez. Voilà ce qui serait à la taille de Michou, ce qui, d'un seul coup, prouverait au monde qu'il n'est pas un gosse comme les autres. À 5 ans, Pascal réinventait bien la géométrie. À 5 ans, lui, Michou, découvrit tout seul comment faire les divisions à un chiffre, parce que le fils des voisins de 3 ans, son aîné, s'était moqué de lui. Des multiplications, ce n'est rien du tout, mais les divisions, tu ne sais pas, moi, je sais. Il avait demandé à maman de lui en poser une, 4 divisé par 2, puis une plus difficile, une autre encore, 1 heure plus tard, Michou savait. C'est le miracle de Michou, dont maman se souviendra toute sa vie, et qu'elle raconte 1 fois par semaine, à peu près. D'ailleurs, Michou n'est plus très sûr de l'âge que Pascal avait quand il réinventa la géométrie. Mais la quadrature du cercle, eh bien, ce n'est pas impossible. Assis devant sa petite table de bois blanc, dans la salle de jeu, Michou décide qu'il y passera, s'il le faut, l'après-midi du jeudi. Il dessine un cercle avec son compas et un carré dans le cercle. Cela donne 4 arcs de cercle. Il les reporte sur une autre feuille en les décalquant pour ne pas se fatiguer et les accole 2 par 2. Il a maintenant deux ellipses un peu pointues. À l'intérieur de chacune d'elles, il dessine un rectangle, puis reporte. Et s'aperçoit qu'il restera toujours un fragment de cercle, de plus en plus petit, de plus en plus difficile à ramener au quadrilatère. Ce n'est pas la bonne méthode. L'idée lui vint, il en était au stade des lignes informes, que les ronds sont plus intéressants que les rectangles et les carrés. Il s'étonna que le professeur n'en ait rien dit. Pourquoi embête-t-on les gens avec des lignes droites? On ne voit nulle part des lignes droites, sauf dans les maisons, les meubles, les objets construits par les hommes. En classe, on ne raconte que des bobards, c'est entendu. Tout de même, celui-là était un peu gros. Étourdi par sa découverte, Michou, pendant le dîner, n'a pensé à rien d'autre. Il aurait voulu que papa fût là pour lui en parler, car s'il en parle à maman, elle répondra sèchement qu'il est un âne. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'apprendre ses leçons et d'obtenir de meilleures notes dans ses compositions d'histoire et de latin. Si l'univers est prisonnier des chauves-souris, on comprend bien que les chauves-souris ne laisseront jamais les hommes connaître la vérité. Parce que s'ils connaissaient la vérité, ils seraient libres. Et ils s'apercevraient, entre autres choses, que les chauves-souris ne sont pas les oiseaux inoffensifs qu'ils croient. Mais sans doute n'y a-t-il rien à faire. C'est comme ça pour l'éternité. Dégoûté, Michou passe ses deux mains dans ses cheveux qu'il ébouriffe. « Michou !»« Oui, maman. On ne touche pas ses cheveux lorsqu'on est à table. »« Oh zut !» pense Michou. « Puisque c'est comme ça, il ne mangera plus. »« Tu n'as plus faim, Michou ? Si tu ne finis pas, tu n'auras pas de cerises. Je n'en veux pas. »« Va te coucher !» dit maman. « Et tout de suite, tu deviens impossible, mon petit !» Michou adore les cerises, maman misait là-dessus, mais la moue de mépris qui tord la bouche de l'enfant est bien imitée. Maman doute de sa science. « Bonsoir, maman !» dit Michou, et il sort de la cuisine. Quand papa ne vient pas dîner, ils mangent tous les deux dans la cuisine, et maman n'attire pas le grand service. Une sale journée. Il monte dans sa chambre, les pieds lourds, il ferme la fenêtre d'abord. Après ce chaud après-midi de grand soleil passé tout à la maison, il ne pourrait pas dormir en plein air. Puis, il donne la lumière et se déshabille. Il est triste. Il lui faut s'apitoyer sur lui-même. Si maman devinait combien il est triste, certainement elle viendrait l'embrasser. Mieux qu'elle ne l'a embrassé tout à l'heure, et peut-être lui apporterait-elle des cerises. L'espérant ? Non, ne l'espérant pas, car elle ne revient jamais sur une décision prise, mais le souhaitant de toutes ses forces, il se couche, il éteint et fait semblant de dormir. C'est alors qu'il entend le bruit, frôlement velouté, pareil à celui qui hante ses rêves. Il a entendu le bruit avant de voir la chose. Mais, à peine a-t-il entendu, il regarde et la voit. Une ombre plane dans la chambre, à mi-chemin entre le plafond et le plancher, remonte au plafond, rase le plafond jusqu'au-dessus du lit, rame de ses ailes dans l'air chaud de la chambre et, les fermant à demi, courbe comme un manteau qu'on va jeter sur vous, descend droit sur le lit. Michou hurle. Il hurle à perdre haleine. À demi couché, à demi assis, les deux bras sur son visage. Un effleurement chaud court le long de ses bras. Et la porte s'ouvre. « Qu'y a-t-il ? » crie maman. « Qu'est-ce qu'il y a, Michou ?» La lumière revenue, un vol furtif, une petite masse brune qui tombe, qui se contracte dans un angle de la chambre. Maman va ouvrir la fenêtre. Elle dit « À ton âge, Michou, tu n'as tout de même pas peur d'une chauve-souris !» À Brétigny, Jean n'avait plus de contact quotidien avec l'ingénieur en chef.